impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Voici enfin la saison 2 des 101 expériences de philosophie au quotidien. En effet, vous avez certainement expérimenté avec succès les expériences de la saison 1, comme aller chez le coiffeur, allumer un feu, voire même boire en pissant. Ces moments de découverte de sagesse philosophique vous ont été proposés à partir du livre de Roger Paul Droit, publié en 2001 aux éditions Odile Jacob. Aujourd'hui, les voies de la sagesse vous seront ouvertes en réalisant les expériences suivantes. Essayer des vêtements, tenir dans un hamac, donner sans réfléchir, dire à une inconnue qu'elle est belle, flâner chez les bouquinistes, faire durer le monde 20 minutes et enfin retrouver sa chambre. Attention, c'est parti!
Essayez des vêtements. Durée 30 à 50 minutes. Matériel, magasin de prêt-à-porter. Effet, rêveur. Il y a des milliers d'années que les vêtements ne servent plus à se protéger du froid ou de la pluie, ni à préserver une supposée pudeur. Il semble difficile d'envisager que même les plus primitifs aient pu avoir uniquement un rôle thermique. Sans doute une fonction symbolique leur a-t-elle toujours été associée. On remarquera au passage que dans aucune des sociétés que les anthropologues donnent à connaître, le vêtement ne se réduit à une simple utilité pratique. Il est toujours codé, pris dans les jeux du pouvoir, de la norme, des rôles sociaux. Nous avons multiplié de manière indéfinie les apparences et leurs significations. Les vêtements parlent du lieu social et physique d'où l'on vient, des pouvoirs spécifiques qu'on exerce ou des dominations qu'on subit. Ils affichent la classe, le caractère, l'âge, l'emploi, le contre-emploi, la transgression, la soumission. Ils peuvent dire « Je suis un jeune des banlieues qui cherche à sortir de l'humiliation en arborant les mêmes marques que les bourgeois de mon âge, mais je choisis des teintes différentes et je les mêle d'une manière qui leur paraît déplacée, sans que je m'en rende compte. Ou bien, je suis une bourgeoise des beaux quartiers, mes enfants sont grands, mon mari m'ennuie, mon amant aussi, mais vous pouvez tenter votre chance si vous savez le code et la façon de faire signe au maître d'hôtel. Vous pouvez faire l'expérience d'essayer des vêtements non pour vous les acheter, mais pour explorer des apparences inattendues. Au lieu de chercher comme d'habitude ce qui vous va, ce qui correspond à vos goûts, votre statut et votre stature, votre morphologie et votre imaginaire, essayez des vêtements incongrus. Trop jeune ou trop vieux pour vous, trop chic ou trop plouc, trop voyant ou trop sobre. Des fringues en tout cas toujours inadéquates, excessives, décalées, capables de vous faire sourire chaque fois que vous vous verrez ainsi attifé. Imaginez-vous comme ces silhouettes des jeux d'enfants dont on change l'habillement en ajustant à leur épaule, au moyen de languettes en papier qui se rabattent en arrière, toutes sortes d'accoutrements disparates. Rêvez-vous Barbie ou Ken. Efforcez-vous ainsi de vous voir en rocker, en diplomate, en commercial, en rappeur, en paysan, en charcutier, en graphiste, en chasseur de canards, en intello, en éboueur, en footballeur, En petit cadre. Chaque fois, vous composerez la vie qui va avec ces pièces de tissu. Manière de parler, façon de manger, domicile, loisirs, voyage. Reposez ensuite le tout sur un cintre. Remerciez le personnel.
Tenir dans un hamac. Durée précaire. Matériel, un hamac. Effet, risqué. Il ne faut pas qu'il soit large. Écartez ces hamacs à fond plat qui sont des matelas suspendus. Rien à voir avec le vrai, l'instable, le difficile hamac authentique. À moins d'être né dedans, d'avoir appris depuis toujours à y dormir et à s'y tourner, les débuts sont risqués. Pas de brusquerie, aucun mouvement inconsidéré. Le mieux est de s'abandonner, lourdement, à son propre poids mou. Ce qu'il faut comprendre de l'intérieur, c'est qu'aucune stabilité n'est jamais acquise une fois pour toutes. La chute est toujours possible, même quand on croit savoir. La meilleure garantie pour conserver l'équilibre, c'est d'être conscient qu'il peut être soudain rompu, à tout moment, sans qu'on sache pourquoi. Cette cassure, toujours possible, il faut l'avoir acceptée, rendue légère, gardée présente, mais à distance. On ne parvient à conjurer la chute qu'en se souvenant qu'elle est possible et en considérant cette éventualité permanente d'un œil distrait. L'apprentissage du hamac vous fait expérimenter, en fin de compte, l'extrême allègement que suscite le pessimisme. Que le pire soit toujours possible sans être jamais assuré rend en fin de compte la réalité assez aérienne. On s'y trouve débarrassé des illusions de la certitude, cousine de l'angoisse des écrasements. Entretenir un léger balancement est même recommandé. Récapitulons. La chute toujours présente, mais comme une possibilité seulement. L'abandon au risque qui devient protecteur. Une certaine ironie envers le pire. Évidemment, il faut tenir dans la vie comme dans un hamac.
Donner sans réfléchir. Durée instantanée. Matériel sous la main. Effet gracieux. L'ennui des gestes qui s'enchaînent, des parcours prévus et des tâches sans surprise vous a déjà tout à fait envahi. Vous avancez machinal dans un temps qui ne vous intéresse plus, presque de l'indifférence. À vous-même, aussi bien, aux autres et aux choses. Surgit alors une misère. Une vraie, un clochard assis, un enfant sale, un estropié, un malade, une peau rougie par le froid, les nuits dehors, le vin. Coin de la rue, trottoir directement, bouche de métro, feu rouge, partout, soudain. Donnez tout de suite, sans savoir, sans réfléchir, sans calculer, aucune délibération, pas de théorie, pas de justification. Donnez ce que vous avez sous la main, un billet, un sandwich, un livre, un stylo, un sourire. Ne vous occupez ni de la valeur des choses, ni de la pertinence du geste. Faites l'expérience de donner d'emblée. Pas tout à fait n'importe quoi à n'importe qui, mais quelque chose de vous, qui êtes à peu près protégé, à peu près confortable, à peu près sans vrai besoin, à l'autre qui attend, juste parce qu'une main se tend. Vous pourrez penser à froid que ce geste est arbitraire. En un sens, injuste à force de déraisons et d'aléas. Dès que vous réfléchirez, vous aurez toutes les raisons, bonnes ou mauvaises, de trouver l'aumône inutile, la mendicité immorale, la charité suspecte. C'est pourquoi il faut écarter avec violence toute réflexion survenant à l'instant où l'on donne. Le don relève de la pitié, cette impulsion soudaine à secourir, à être solitaire, que l'analyse combat et dissout. Dans cette circonstance, il ne faut pas hésiter à faire taire la réflexion par la force. La mémoire conserve la gratitude de tels instants. Vous avez depuis longtemps oublié les petits repas ingérés raisonnablement, depuis longtemps effacé de votre mémoire l'argent dépensé logiquement. Vous vous souvenez au contraire de ceux que vous avez donnés, et des gestes, des visages, des mots allant avec. Ce n'est pas seulement le contraire de l'oubli. C'est l'inverse du remords.
Dire à une inconnue qu'elle est belle. Durée, moins de 1 minute. Matériel, aucun. Effet, feu d'artifice. Vous ne l'avez jamais vue. Seul le hasard de l'heure fait que vous la voyez aujourd'hui au restaurant, ou dans le train, ou au café, ou traversant la rue. Elle est rayonnante, vivante, parfaite. Sa seule présence est rassurante. Dans quelques minutes ou quelques secondes, elle disparaîtra. Vous ne la reverrez plus jamais. Ça n'a aucune importance. Vous débordez de gratitude pour son passage bref. Vous avez envie de la remercier d'exister, de lui dire qu'elle est belle et que cette beauté réjouit le cœur. Ça ne se fait pas. Vous risquez toutes sortes de malentendus. Seule, elle va croire que vous voulez simplement la draguer. Votre gratitude, pourtant, est désintéressée. Si elle est accompagnée, vous serez dans le mauvais rôle du provocateur obscène, du type à claquer. Faites l'expérience d'oser, malgré tout. Question de style et de sincérité. Vous avez plus à gagner qu'à perdre. Gagner quoi au juste? Le plaisir de dire. On ne peut remercier, pour la joie que leur contemplation procure, un paysage, un ciel, une roche, une fleur ou un oiseau. Ils ne peuvent rien savoir du mouvement de reconnaissance qui en résulte. Il en va autrement de la présence humaine. Pour la suite, vous verrez vous-même. Une majorité de haussements d'épaules pourrait toutefois révéler une déplorable détérioration du lien social.
Flâner chez les bouquinistes. Durée 2 ou 3 heures. Matériel, plusieurs librairies d'occasion. Effet, divagant. Une affaire de hasard. Vous avez par chance un peu de temps libre, de manière imprévue, entre 2 rendez-vous ou parce que les transports sont en grève, ou comme ça, en passant. Rien de prémédité en tout cas. Et vous vous retrouvez chez des bouquinistes. Laissons la ville, le quartier, le pays ou la saison. Village de livres, boutique unique ou rue spécialisée, la seule chose qui compte est que vous entriez, tout entier, dans la ronde des titres. Vous passez de rayon en rayon, d'étagère en étagère, d'un mur à l'autre. Vous ne cherchez rien de particulier. Et vous vous sentez sollicité par des titres, des auteurs, des personnages, comme si chaque livre vous interpellait, essayant de vous attirer à lui. Vous devinez derrière chaque couverture, comme derrière autant de fenêtres closes et de volets tirés, des vies entières, des souffles. Dans chaque volume, des destins vous attendent. Petit destin de 3 fois rien, fatalité de passage, qu'importe. Si vous entrez, vous serez emporté. Assez longtemps, assez loin. Mais la concurrence est rude. Parmi ces milliers de volumes, lesquels allez-vous suivre? Vous percevez de proche en proche les murmures de tous ces titres en train de racoler. Tu me lis, mon chou? Emmène-moi, tu ne le regretteras pas. Si tu m'en trouves, c'est sûr que tu ne t'arrêteras plus. Je n'attends que toi. Prends-moi, prends-moi. Vous passez vite et de loin d'un chuchotement à l'autre. Vous entendez les voix basses, vous respirez les haleines tièdes des textes qui s'offrent. Alors vous percevez directement cette vérité. La littérature est prostitution, au moins en un sens. Chaque histoire imprimée est une pute qui tente de se faire remarquer, de capter un moment l'esprit qui passe, de se prolonger dans une attention prêtée. L'ensemble des arts est d'ailleurs ainsi. Les œuvres chuchotent toutes des obscénités à voix basse et le regard passe en glissant de l'une à l'autre. Vous finirez peut-être par considérer les librairies comme des bordels, les expositions comme des partouzes, la culture comme une orgie. Même si votre moment de liberté s'achève, les appels continuent et vous éprouvez pour les artistes une profonde compassion.
Faire durer le monde 20 minutes. Durée 21 minutes. Matériel, un monde et une pendule. Effet effrayant ou rassurant. Le passé s'incruste. Le voici dans les moindres gestes. Il se love dans les pensées, même celles qui apparemment ne semblent pas se soucier de lui. L'avenir, lui aussi, ne cesse de soutenir le moindre projet. Il accompagne nos plus infimes anticipations. Que se passerait-il si nous tentions, même illusoirement, à peine pour jouer, de défaire ces terribles contraintes? Imaginons donc, autant qu'il est possible, que le passé n'a jamais eu lieu et que l'avenir n'existe pas. Essayons de croire que ce monde, tel qu'il est, ne dure que 20 minutes. Il a été constitué d'emblée, juste à l'instant, tel quel, nous compris. À la minute précédente, il n'existait pas. Tout ce que le monde contient présentement comme vestiges, ruines antiques, bibliothèques, monuments, archives, souvenirs proches ou lointains, tout cela vient d'apparaître en même temps. Les archives sont bien là, les témoins aussi, mais le passé dont ils parlent n'a jamais existé autrement qu'à l'instant. Ce monde, infini, divers, multiple, possède une durée de vie limitée à 20 minutes exactement. Au-delà, il disparaîtra totalement, définitivement. Pas de déflagration gigantesque, aucune explosion cosmique, pas d'embrasement insensé ni de fournaise immense, rien qu'une extinction brusque. Comme s'évanouit une bulle de savon, comme cesse soudain de briller une lumière. Installez-vous dans ce monde de 20 minutes. Constatez combien il est, en un sens, identique au nôtre. Même volume, même cieux. Aucun objet ne diffère. Les mêmes gens font les mêmes choses. Voyez, ce n'est pourtant pas du tout le même univers. Ce monde auquel manque la profondeur d'un passé réel et la perspective d'un avenir envisageable peut bien paraître tout à fait identique. Il n'en diffère pas moins radicalement d'une autre à cause de cette limite temporelle. Avant que cet univers éphémère n'ait totalement disparu, efforcez-vous de comprendre, vous qui avez l'illusion qu'une autre réalité existait, existera combien votre pensée est différente de cette existence minutée. Plus vous éprouverez cet écart et cette distance, plus vous pourrez sentir l'importance pour nous de l'immémorial et de l'horizon du futur. À l'approche du terme fatidique des 20 minutes, vous devez ressentir furtivement la terreur sourde que tout effectivement disparaisse. Il est probable qu'il n'en sera rien. Vous pourrez donc sortir à la 21e minute de cette frayeur sans objet. Vous vous efforcerez alors de goûter le soulagement que le monde continue. Vous trouverez peut-être ensuite comme un arrière-goût, la déception secrète que rien ne soit aboli. Mauvais joueur.
Retrouver sa chambre après un voyage. Durée 10 à 20 minutes. Matériel: un retour chez soi. Effet: reposant. Il faut revenir de loin ou bien avoir été absent longtemps. Vous vous êtes déshabitué de vos repères familiers. Il vous a fallu dormir dans des lits différents, vous accoutumer à d'autres nourritures. Vous avez changé de climat, de rythme, d'horizon. Vous avez entendu d'autres langues, pratiqué d'autres activités que de coutume. Votre corps, votre âme se sont conformés à des plis nouveaux. À présent, la porte de chez vous n'est plus très loin. C'est ce moment qu'il faut explorer. Déjà, depuis quelques minutes, des points de repère se réactivent. Vous regardez assez curieusement les routes ou les rues alentour, les maisons voisines. Vous saviez bien que c'était ainsi. Ce n'est pourtant pas tout à fait comme avant. Dire ce qui a changé n'est pas simple. Rien, évidemment. Quelque chose, pourtant. Et pas simplement vous. C'est dans les choses mêmes, ou bien entre elles et vous, qu'il semble y avoir eu des éléments décollés. Vous ouvrez la porte, allez directement dans votre chambre, allongez-vous sur le lit, regardez attentivement autour de vous. Il faut d'abord retrouver le volume, recadrer les distances, réajuster les couleurs. Aucun de ces mots ne convient. Le processus qui se déroule très vite est bien plus subtil que le vocabulaire disponible. Vous connaissez par cœur cet espace, sa répartition, ses teintes, mais vous ne les aviez pas perçues ces derniers temps. Vous aviez dû vous exercer à d'autres sensations. Le retour de celles-ci fait connaître à la fois leur familiarité et la distance prise envers elles. Soyez attentif à ce que vous avez éventuellement oublié. D'infimes détails. Une tache sur le mur, un pli du tapis, un léger creux du parquet. De choses comme ça. Vous les savez, vous ne les aviez plus en tête. Elles s'étaient estompées. Sans vous étonner, elles vous surprennent un peu. Tentez de rester dans cet équilibre instable entre les empreintes anciennes, dans lesquelles vous allez bientôt vous couler de nouveau sans effort, et les ajustements différents que vous avez opérés en votre absence. Ce temps de flottement passe vite. Vous allez très bientôt recoller toutes les pièces et faire le récit de votre voyage au passé. Avant que ne reprenne le cours sans question des travaux et des jours, demandez-vous comment votre chambre vous a attendu, comment elle a pu ne pas changer. Il est difficile de comprendre comment une réalité peut parvenir à demeurer identique en votre absence. Et vous, qu'avez-vous fait de votre côté pour votre part, pour que cette chambre demeure identique à elle-même? L'avez-vous portée dans un coin de votre mémoire? L'avez-vous soutenu, nourri, activé, retenu? Est-ce à vous, est-ce à elle-même, ou à qui ou à quoi d'autre que cette chambre doit, quand vous n'étiez pas là, de ne pas s'être effondrée dans le néant, ou bien d'en être finalement ressortie intacte? Il y a bien sûr des gens qui haussent les épaules, trouvent de telles questions idiotes. Les choses restent où elles sont sans rien avoir à faire pour cela. Nous les retrouvons, un point c'est tout. Pas si sûr. Thank you.
De la saison 1 à la saison 2, vous avez pu essayer une quinzaine d'expériences de philosophie quotidienne. Il vous en reste beaucoup d'autres puisque le texte de Roger Paul Droit s'intitule « 101 expériences de philosophie quotidienne ». Les lecteurs que vous avez entendus et qui ont préparé cette émission sont Anne, Christine,
Ouria,
Philippe,
Marie,
Valérie,
Armel.
Et à la technique, il y avait Vincent
et Yvan Davy.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez